J'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu et dans sa présence. On sent que Dieu est parmi nous. C'est tellement bon de pouvoir l'adorer, le louer et voir que le Saint-Esprit est parmi nous. Alléluia. Donc le pasteur Yvan m'a demandé de pouvoir apporter la parole ce matin et c'est avec vraiment une réelle crainte par rapport au fait que la parole de Dieu a la puissance de changer nos vies, que ce matin j'aimerais vous partager une pensée que Dieu a mise sur mon cœur il y a de ça peut-être 2 semaines. Et avant de pouvoir la développer, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans le deuxième livre des Rois au chapitre 5. Deuxième livre des Rois au chapitre 5. On va lire les versets 1 à 8 ensemble en version Semeur. Deux Rois, chapitre 5, versets 1 à 8. C'est l'histoire de Naaman. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur. Car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de la lèpre. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi Naaman se mit en route, en portant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 kilos de vêtements, et 10 vêtements, pardon, de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Verset 7. Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Verset 8, il dit, « Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Amen. J'aimerais juste qu'on demande à Dieu de nous bénir au travers de ces moments. Seigneur, tu vois, on vient d'ouvrir ta parole et je te prie, Seigneur mon Dieu, de nous parler au travers de ce message. Je te prie, Seigneur, que le Saint-Esprit dispose nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur. Je te prie qu'il ait la liberté, Seigneur, de pouvoir nous parler, qu'il ait la liberté de pouvoir agir dans nos vies. Je te prie vraiment de disposer nos vies à écouter, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia, mon Dieu. Amen. Amen. L'histoire de Naaman, je pense que beaucoup parmi nous la connaissent. C'est l'histoire d'un homme remarquable, un homme qui est très respecté dans son pays. C'est un général 4 étoiles du royaume de Syrie. Il est très respecté et on dit que le roi même l'a en haute estime parce qu'il a réussi à pouvoir accorder des grandes victoires à son royaume. Et on voit que même s'il est très estimé, qu'il a une grande valeur, la Bible nous dit qu'il est lépreux. Il a tout pour réussir cet homme. Il a un avenir devant lui, il a une grande estime de la part de tous ceux qui sont autour de lui, mais il a quelque chose qui compromet son avenir. Il a quelque chose qui le détruit au fond de lui et qui vont l'amener à mourir petit par petit, à petit feu, c'est qu'il est lépreux. Je pense que tout le monde sait ce qu'est la lèpre. On en voit des fois encore dans le métro des photos. C'est quelque chose de dramatique. Quelque chose de dramatique. Et alors que c'est un homme qui a certainement beaucoup de pouvoir dans son pays, on peut imaginer qu'il a, avant d'écouter une petite servante, lui conseiller d'aller voir un prophète dans un pays qui n'est pas le sien, certainement qu'il a dû tenter d'aller chercher du secours parmi les plus grands médecins, les plus grands guérisseurs de son propre pays. Mais visiblement, ça n'a pas marché. Visiblement, ça n'a pas marché. Et certainement qu'il en arrivait à être désespéré pour aller écouter cette petite servante. Et c'est pourquoi on voit dans l'histoire qu'il entreprend un voyage. Celui d'aller se présenter au prophète. Mais avant, il passe par le roi. parce que c'était certainement une habitude de pouvoir, avant de pouvoir aller dans, contacter un prophète, de pouvoir en demander l'autorisation au roi. Et en l'occurrence, le roi d'Israël, qui s'appelle le roi Joram, à la lecture de la lettre, a une réaction plutôt virulente, très violente. On voit qu'il se met en colère, qu'il commence à déchirer ses vêtements, qui est une pratique dans l'ancien temps de pouvoir montrer combien il est offusqué par la demande, parce qu'il pense que le roi de Syrie veut chercher à lui déclarer la guerre par ce moyen. Il commence à lui dire, mais est-ce que je suis Dieu, moi, pour pouvoir guérir un homme de la lèpre? Est-ce que je suis Dieu? Et à la lecture de ces deux versets, le comportement d'Joram et le comportement d'Élisée, ça m'a interpellé. Parce qu'on voit une attitude et une réaction totalement différentes. Entre Joram, qui commence à se mettre en colère, qui voit aucune possibilité pour pouvoir répondre aux besoins de cet homme qui se présente à lui, et l'attitude du prophète Élisée qui, en entendant ça, lui dit « Amène-le-moi et il verra qu'il y a un prophète en Israël. » Il y a un contraste, un réel contraste. Et ça se résume en un seul mot, la foi. La foi. Pour illustrer mon propos, j'aimerais juste vous montrer peut-être une petite image. Une petite image, vous l'avez peut-être vue pour vous qui voyagez dans le métro pour aller le matin au travail. C'est une affiche publicitaire que l'on voit un peu partout. C'est une entreprise de soutien scolaire à domicile. Et leur slogan, c'est « Tout est une question de confiance ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Dans le métro, on la voit partout. Et en fait, il y a plusieurs cas de figure à chaque fois, plusieurs jeunes hommes, jeunes filles, étudiants auxquels ils expliquent un petit peu les raisons pour lesquelles il y a un manque de confiance et les résultats. Et j'ai beaucoup apprécié cette remarque, c'est celle d'Hugo. Alors, c'est un jeune homme. Hugo est un crack aux échecs. Pourtant, son manque de confiance le met en échec en maths. Petit jeu de mots avec échec et maths, pour ceux qui n'avaient pas compris. Non, je pense que vous avez quand même vu. Échec et maths, j'ai cherché un petit peu ce que ça voulait dire. En fait, ça vient d'un terme perse qui veut dire « le roi est mort ». Le roi est mort. Vous connaissez la règle du jeu. À partir du moment où on arrive à tuer le roi sur le jeu, la partie est finie. C'est fini, terminé, on remballe. Et derrière tout ça, c'est que c'est à cause de son manque de confiance. Mais si on transpose à notre vie spirituelle, je pense que, également, le roi Joram avait une foi qui était totalement morte. Une foi totalement morte. Sa foi était échec et mat. Alors que pourtant, c'est le roi d'Israël. Si on se rappelle bien une chose, c'est que Dieu s'est choisi un peuple. Vous connaissez l'histoire, un peuple, le peuple d'Israël, parce qu'il voulait que ce peuple soit le peuple qui le représenterait parmi les autres peuples. Les autres peuples avaient des dieux, mais Dieu voulait faire la différence avec Israël pour leur faire voir que, avec le Dieu, l'unique Dieu, il y avait un moyen de pouvoir vivre des choses merveilleuses, d'être épanoui, d'être heureux, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Et le peuple d'Israël avait un appel sur sa vie. Un appel sur son existence, c'est de représenter Dieu parmi les nations. Et à bout d'un moment dans l'histoire, on voit que Dieu a placé un roi, a appelé le roi à pouvoir conduire le peuple, mais non pas de manière autonome, mais en concordance avec le vrai roi du peuple qui est l'Éternel. Vous voyez ? Et on voit une chose, c'est que là, le roi Joram ne sait plus du tout qui est Dieu. On voit que Joram, il n'a plus du tout de foi en Dieu. Il ne sait peut-être même plus qui est Dieu. Et pourtant, il a côtoyé Élisée. On voit dans les chapitres précédents qu'il a vu que pourtant Élisée avait fait des miracles en l'Éternel. Et on voit au final qu'en entendant ce besoin, il est incapable d'y répondre. Il ne pense même pas que Dieu a la capacité de pouvoir répondre aux besoins de Naaman. Sa foi est morte. Contraste avec Élisée qui lui dit « Amène-le-moi » et il verra qu'il y a un prophète en Israël. La question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, est-ce que votre foi est échec et mat? Est-ce que votre foi est échec et mat? Vous savez, dans nos problèmes personnels, on peut arriver des fois, avec les épreuves, à ce que notre foi soit comme grignotée avec le temps et ne plus chercher à trouver un secours en notre Dieu. Ça peut également être une attitude qui se retrouve dans l'Église, une Église qui perd la foi et une Église qui perd toute sa richesse. Une église qui perd la foi, c'est une église qui, un peu comme Joram, lorsque Naaman arrive, quelqu'un qui est détruit par la vie, détruit par le péché, parce que la lèpre, c'est aussi le symbole du péché, eh bien, on n'a plus la vision que Dieu pourrait avoir pour ces personnes, comme quoi il pourrait changer leur vie. La foi est morte, elle est échec et mat. Et pourtant, la foi, c'est la base de tout avec Dieu. J'aimerais qu'on voit encore ensemble ce matin pourquoi c'est primordial d'avoir une foi vivante. Le titre de mon message ce matin, c'est « Retour à une foi vivante ». Et j'aimerais qu'on voit ce matin, déjà le premier point, c'est que sans la foi, sans cette foi vivante, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu est blessé par notre attitude d'incrédulité. Dieu est blessé, profondément affligé, parce qu'en voyant quelqu'un et un peuple qui n'a pas confiance en lui, eh bien en fait, il ne peut rien faire. Et il est affligé parce qu'il voudrait faire beaucoup pour chacun d'entre nous. Et si on replace l'histoire dans le contexte, on s'aperçoit que c'est tout simplement l'époque même d'Israël qui est dans une noirceur d'incrédulité. Une noirceur d'incrédulité. Dès le premier chapitre du livre, on remonte au père de Joram. Et le père de Joram s'appelait Ahazia. Et le livre commence avec Ahazia, roi d'Israël, se promener sur la chambre haute de son palais et il a un accident gravissime. Il tombe de sa chambre et il se blesse grièvement. Et pendant qu'il est en train d'agoniser, peut-être qu'il voit ses jours arriver à leur fin, il a un réflexe. Son premier réflexe, c'est quoi ? C'est d'aller mandater des messagers, des serviteurs, pour qu'ils aillent consulter le dieu d'Écron, une ville philistine. C'est-à-dire qu'il va consulter un dieu étranger, le dieu des Philistins, qui s'appelle Baal-Zéboub. Et là, à ce moment-là, Dieu parle à Élie le prophète, à l'époque c'était Élie, et lui dit, écoute, il lui explique les faits, et lui dit, voilà, le roi va bientôt mourir, il cherche des réponses à ses problèmes, il cherche une solution auprès d'un dieu étranger. Et il dit au verset 6, va leur dire, mais n'y a-t-il pas de dieu en Israël pour que tu envoies consulter un dieu étranger, Baal-Zéboub. Dieu est profondément affligé de l'attitude du roi. Mais toute cette attitude d'incrédulité était prégnante en Israël. Il n'y avait plus la foi en Dieu. On ne recherchait plus Dieu. Dieu était appelé à être le Dieu de ce peuple pour pouvoir agir puissamment au milieu de ce peuple. Et en réalité, plus personne ne s'occupait de Dieu. Dieu est profondément affligé. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que du temps de Jésus, je ne sais pas si vous vous rappelez Jésus, a du temps où il était sur la terre, a résisté, a fait face au péché, a fait face à l'idolâtrie, a tenu ferme face à l'immoralité. Il a été jusqu'à la croix pour ça, et il a tenu ferme. Mais il est dit que Jésus pleura face à l'incrédulité. Au moment où Lazare était mort, il voit que tout le monde se lamentait autour de lui, pourtant il était là, et il voit que, et on dit que Jésus pleura face à cette incrédulité ambiante. Jésus était désarmé face à cette incrédulité. On voit un autre moment que lorsqu'il voyait Jérusalem, il commence à se lamenter sur Jérusalem, sur le peuple d'Israël. Parce qu'il voit une chose, c'est que ce peuple n'a plus du tout confiance en Dieu, n'a plus les pensées tournées vers Dieu. Il pense à tout sauf à Dieu. Et il se lamente parce qu'il est là comme une mère qui veut rassembler ses enfants. Il leur tend les bras pour les bénir, mais le peuple d'Israël ne le calcule même plus. L'incrédulité est là. Bien souvent, on voit que dans la Bible, Jésus a honoré la foi de ceux qui le cherchaient sérieusement. Mais il est dit qu'à un moment, lorsqu'il rentre dans sa patrie, il ne put faire beaucoup de miracles parce qu'il y avait trop d'incrédulité. L'incrédulité blesse Dieu. L'incrédulité limite Dieu. Parce qu'il ne peut agir, parce qu'il est dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Échec et mat. Peut-être que ta foi ce matin est en train d'être grignotée. Peut-être que tu as perdu la foi. Tu as perdu confiance en ton Dieu. Peut-être que aujourd'hui même, ta foi, c'est juste une étiquette sur un front. Je suis chrétien, je vais à l'église. Mais au final, derrière cette étiquette, derrière cet emballage, il n'y a rien du tout. Ça sonne vide. Ça ne s'entend plus. C'est une foi terne, une foi vide. Dieu m'a parlé au travers de ce texte parce que j'aspire à bien plus et bien davantage. Mais je vois une chose, c'est qu'avec le temps, la foi arrive à être comme grignotée, à être détruite. Et Dieu est profondément affligé de notre comportement parce que Dieu aimerait tellement faire plus pour nous. Il cherche quelque chose, une foi vivante. Une foi vivante. Des fois, on dit qu'on aime Dieu. Et au final, on passe tellement peu de temps avec lui. Une foi vivante, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se construit avec le temps dans l'intimité avec Dieu. C'est une relation qui comprend qu'en abandonnant notre vie à Dieu, eh bien, on a toutes les raisons de pouvoir vivre heureux. Parce qu'en connaissant Dieu, on apprendra à recevoir ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. Sa présence, sa consolation dans nos moments difficiles. Toutes ces choses-là se construisent avec une vie de foi, une relation étroite avec notre Dieu. Échec et mat, où en est ta foi ce matin? J'aimerais vous dire une chose, c'est que, deuxième point, sans la foi, nous ne pouvons posséder les bénédictions de Dieu. Il est dit, Hébreux 11, verset 1 à 2, « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. » Posséder ce qu'on espère, ce qu'on ne voit pas. C'est un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Amen. On voit une chose, c'est qu'à partir du moment où Naaman vient se présenter au prophète, quelque chose d'étonnant qui se passe, c'est que le prophète va envoyer un serviteur qui va se présenter à Naaman et va lui dire, c'est simple, tu veux être guéri, tu vas te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Et vous voyez, il y a une réaction, on n'a pas le temps de le lire, mais je vous l'explique, c'est une réaction peut-être légitime par rapport à un Naaman qui ne connaît pas Dieu, c'est qu'on voit qu'il se met en colère, Naaman. Il se dit, mais quelqu'un aussi important que moi, qui est reçu par un serviteur, et en plus il me demande d'aller me baigner dans le Jourdain. Imaginez Naaman, un homme important, qui a l'habitude de pouvoir donner des ordres à des centaines de personnes, voire des milliers de personnes. C'est lui qui dit ce que les gens doivent faire. Il dit un mot et les gens obéissent. Et on voit une chose, c'est que là, déjà, Élisée ne le reçoit pas comme il l'avait prévu. Il ne le reçoit pas comme il avait prévu. Il envoie un petit serviteur pour lui dire juste un mot, il en trouve la porte, bonjour, tu vas te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri, au revoir. Naaman était habitué à pouvoir recevoir, être reçu dans des maisons où on l'accueillait, tapis rouge déroulé devant lui et peut-être qu'il s'attendait à ce qu'Élisée lui tape dans le dos et lui dise « Voilà, bienvenue dans la maison, je vais pouvoir me prendre soin de toi, m'occuper de toi. » Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Et il repart vexé, en colère. Naaman part frustré, en colère, jusqu'à ce qu'il écoute quand même la voix de ses serviteurs qui lui disent « Mais attends, mais si t'avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Là, il te demande juste de te baigner dans le Jourdain. Va le faire. » Et il mit sa foi en Dieu et il nous a dit qu'il fut guéri. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre des personnes ou de voir des personnes recevoir une réponse de Dieu lorsqu'elles cherchent une réponse de Dieu et partir en colère parce que la réponse ne leur convienne pas? Ça arrive, hein, c'est dommage. Simplement pour une chose, parce que la foi, pour la posséder et pour posséder les bénédictions de Dieu, il faut savoir s'effacer sur ce que Dieu nous demande de faire. La foi, elle est basée sur une dépendance totale de Dieu, chose que Naaman n'avait pas l'habitude de faire. Naaman, il avait l'habitude de compter sur ses propres forces. Naaman, il savait que parce qu'il était valeureux, il avait vaincu beaucoup de batailles, il avait gagné beaucoup de batailles. Mais là, Dieu lui demande une chose, fais-moi confiance. Livre ta vie entièrement entre mes mains. Ferme les yeux, laisse-toi guider. Remets ton sort en l'Éternel. Il ne savait pas ce que c'était. Il a dû apprendre et obéir. Et c'est parce qu'il a obéi et parce qu'il a cru qu'il a vu la bénédiction de Dieu arriver. Naaman était guéri, Naaman était purifié. J'aimerais vous dire une chose, c'est que le diable sait que en détruisant notre foi, il limite notre action. Il sait que notre foi, une foi vivante et sincère, est une réelle menace pour son royaume. J'aimerais vous rappeler un verset qui nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Vous connaissez la prière du juste, mais qui est le juste? Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. Ça veut dire que quelqu'un est justifié et quelqu'un a une écoute auprès de Dieu s'il a la foi, s'il vit par la foi, s'il cherche à rester dépendant de son Dieu. Il a une écoute auprès de Dieu. Échec et mat. Où en est ta foi ce matin? Dieu aimerait nous faire posséder ses bénédictions parce que Dieu nous aime, parce que Dieu aimerait encore agir dans nos vies. J'aimerais vous dire une chose, c'est que une foi, c'est quoi? Une foi simple. J'aimerais vous raconter une petite expérience. Mais c'est mes parents qui m'ont raconté ça encore hier. On était à table. J'avais entre 3 et 5 ans. Et en fait, je me rappelle juste des souffrances Parce qu'à 3 et 5 ans, on ne se rappelle plus grand-chose de la vie ou quelques bribes, quelques images. Mais mes parents me disaient que mes mains étaient couvertes de verrues. Couvertes de verrues, j'en avais des dizaines sur les mains. Et en fait, ça commençait même à arriver sur mon visage. Et chaque fois que j'allais au dermatologue, il me les brûlait, il me faisait souffrir, ça repoussait. Et au bout d'un moment, mon père me dit, mais David, tu souffres effectivement à 3 ou 5 ans. Hein, 3 et 5 ans. Il me dit, voilà, tu vois, là, il n'y a plus rien à faire, mais prie le Seigneur, il va te guérir. Et avec une prière simple, une prière d'un enfant, une prière qui croit ce que son papa lui dit, au bout de 2 jours, toutes les verrues avaient disparu. Parce que Dieu avait su écouter son enfant. J'aimerais vous dire une chose ce matin. Nous sommes les enfants du plus grand des papas. Notre Père dans les cieux a un cœur pour ses enfants. Ça veut dire qu'il écoute cet enfant qui crie à lui d'un cœur sincère et qui s'abandonne à lui pour lui dire « Voilà, je me remets entre tes mains. » Et il écoute et il exauce. Parce que Dieu est un Père compatissant. Vous êtes toujours là ? Amen. J'aimerais vous dire que la foi dépasse le simple cadre du miracle. Simple cadre de la guérison. Elle en fait partie, mais ça va bien au-delà. C'est une réelle dépendance de Dieu. Ça veut dire que dans nos épreuves, si tu construis cette foi en Dieu, eh bien tu sauras trouver, et on sait trouver les subsistances nécessaires qui nous permettront de traverser nos épreuves. À partir d'une foi vivante, Dieu peut nous donner tout ce dont nous avons besoin lorsque les épreuves sont là. Les vagues des épreuves se déchaînent contre nous. Pourquoi ? Parce que une réelle intimité avec Dieu, une réelle relation avec Dieu s'est construite. Et parce que nous savons que Dieu est notre Dieu, au travers de cette relation, il nous fait comprendre qu'au moment des épreuves, il est toujours avec nous. Dieu est un Dieu consolateur. Au moment des épreuves, il nous dit que le Saint-Esprit est envoyé et le Saint-Esprit est le consolateur. Ça veut dire que ce matin, si toi tu es comme Naaman, si toi tu sais peut-être même pas ce que c'est que la foi, ou tu as mis de côté la foi parce que tu n'y crois plus comme Yoram, j'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu attends que tu puisses à nouveau lui dire « Seigneur, augmente ma foi. Viens ressusciter ma foi. J'aimerais à nouveau te voir agir dans ma vie. » Et comme Naaman, tu peux être surpris de voir un Dieu qui agit. Parce que à partir du moment où la foi est présente dans notre cœur simplement, Dieu entend le juste qui a la foi. Échec et mat, où en est ta foi? Tu aimerais pouvoir te faire repartir de ce lieu comme Naaman après être sorti des eaux du Jourdain purifié. Alléluia. J'aimerais finir par ce troisième point et inviter les musiciens. Un autre élément important de la foi, c'est que sans une foi vivante, on ne peut pas construire, édifier un peuple qui connaît Dieu. Vous voyez, il est dit dans 2 Rois chapitre 5 verset 15, c'est Naaman qui revient voir le prophète après avoir été guéri. Il dit comme ça, lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » On voit une chose, c'est que parce que Élisée était un homme de foi, était un homme qui avait une relation avec Dieu, qui avait une foi développée, qui a su faire la différence à ce moment-là, eh bien, Naaman a pu rencontrer Dieu. Naaman a pu être guéri et Naaman a fait encore bien plus que d'être guéri dans son corps. Il a rencontré le Dieu, l'unique Dieu et il repart dans son pays avec une foi réelle, une vie transformée, un avenir totalement différent, parce qu'il a rencontré le Dieu d'Israël. J'aimerais vous dire une chose, c'est que notre témoignage de foi a un impact énorme. Hébreux 13, verset 7 à 8 nous dit « Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Souvenez-vous-en. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. » Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Amen. Amen. J'aimerais vous dire une chose, c'est que toutes les histoires qu'on a entendues dans le passé, Dieu nous demande d'imiter ces hommes de foi. Mais il est dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout simplement pour dire que Jésus n'a pas changé. Jésus aujourd'hui peut faire encore la même chose dans nos vies aujourd'hui. Ce texte s'adresse à tous les leaders, tous ceux qui ont une responsabilité, tous ceux qui ont un rôle de dirigeant. Ça ne s'adresse pas qu'aux pasteurs, quand on dit « imiter leur foi ». Là, il y a un sondage de l'Église qui nous disait qu'une grande majorité d'entre nous, un gros 50% des chrétiens ici, ont plus de 10 ans de conversion. Ça veut dire qu'ils ont plus de 10 ans de relation avec Dieu. Tout simplement pour dire que Dieu nous appelle, à chacun d'entre nous, être des leaders qui influence par notre vie de foi ce qui nous entoure. Que tu sois pasteur, que tu sois leader dans un service, que tu sois père, mère dans ta famille, tu es appelé à être un modèle de foi pour pouvoir impacter ta famille, impacter tes proches, impacter ceux qui sont autour de toi, qui te rencontrent. J'aime bien cette histoire du pasteur Claude Hout qui explique qu'un jour, il y a un homme alcoolique qui avait l'habitude de pouvoir dépenser tout son argent dans les bars. À un moment, alors qu'il neigeait au Québec, il est dit qu'il se dirigeait dans la neige vers la taverne. Et au bout d'un moment, lorsqu'il se dirige vers la taverne, il entend un bruit de pas dans la neige derrière lui. Et il se retourne et en fait, il voit son petit qui est là et qui essaye de le suivre en mettant ses pieds dans les traces de son papa dans la neige. Et là, il commence à se prendre une claque parce qu'il comprend une chose, c'est que son attitude influence son petit qui se dirige lui-même vers la taverne. Ça veut dire que toute personne ici influence son entourage. Toi en tant que papa, toi en tant que maman, tu influences ta famille. Si tu as une vie de consécration, une vie de foi avec ton Dieu, si au travers des épreuves, tes proches peuvent voir que tu vis une foi qui fait la différence, tu influenceras tes proches. Des personnes nous tirent vers le haut. C'est important de pouvoir savoir ça. Des personnes nous tirent vers le bas également. Dans quelle catégorie te situes-tu ? En tant que chrétien, Dieu nous dit, vous êtes le sel de la terre. Ah ! Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Si tu perds ta foi, si tu perds ce qu'il y a de plus précieux pour toi qui es chrétien, mais comment vas-tu faire la différence ? Dieu nous appelle à faire la différence. Dieu nous appelle à avoir une foi vivante. Je me rappellerai toujours de ma grand-mère, qui était pour moi un exemple. On a tous des personnes qui ont marqué nos vies. Mes parents ont marqué ma vie parce que dans leur attitude de foi, dans leurs moments difficiles, en tant qu'enfant, je voyais comment ils se comportaient. Je voyais qu'ils avaient une réelle relation avec Dieu. Je savais que Dieu avait une réelle importance dans la famille. On parlait de Dieu, on parlait des merveilles de Dieu. C'était quelque chose de prégnant dans ma famille. Mais ma grand-mère, j'ai passé quasiment toute mon enfance avec elle en vacances. Et on passait des soirées. Son exemple marque ma vie. Elle est décédée encore. Elle est décédée l'année dernière. Et en étant à son enterrement, je voyais dans la salle combien sa vie avait marqué une multitude de personnes qui avaient été soit amenées à Christ grâce à son témoignage, grâce à ses épreuves où elle avait vu Dieu faire la différence dans sa vie. Dieu avait marqué ma vie au travers de ma grand-mère. Parce que des soirées entières, elle nous parlait combien Dieu était son Dieu, combien Dieu avait exaucé ses prières. Ça marque un enfant. J'aimerais vous dire une chose, c'est que ce matin, Dieu nous appelle à nous qui sommes parents, nous qui sommes peut-être grands frères, grandes sœurs, peut-être que c'est à ton travail à faire la différence, à avoir un témoignage qui amène chacun d'entre nous et ceux qui nous entourent à venir à la foi et goûter à la présence de Dieu. J'aimerais qu'on s'incline, qu'on rappelle ce qui a été dit. Échec et mat, où est ta foi ? Où en est ta foi ce matin ? Dieu nous appelle à une vie qui a une foi vivante parce qu'il veut une différence. Il veut une différence pour l'Église. Il veut que lorsque un Naaman arrive dans l'Église, il trouve des gens qui ont la foi pour l'accueillir les bras grands ouverts, lui dire voilà, voir par la foi les possibilités qu'il y a en Dieu à pouvoir avoir une vie restructurée. Si c'est ton cas ce matin, j'aimerais te dire que Dieu est présent dans ce lieu et il a la capacité de pouvoir répondre à tes besoins. Seulement, il faut une chose, la foi. La foi. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble, qu'on considère tout ça. Parce que le témoignage de l'Église, le témoignage d'une vie, c'est une vie de foi. J'aimerais qu'on prenne ce chant avec Jeff. Élève-toi. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on puisse considérer ce que Dieu nous a dit. Parce qu'il a été apporté à plusieurs moments par des dons ce matin que Dieu faisait toujours appel à notre foi. Ça veut dire que des personnes dans ce lieu ont besoin de réaliser que c'est grâce à cette foi-là qu'ils vont pouvoir voir leur vie changer. Si c'est ton cas, alors j'aimerais vraiment implorer que tu puisses dire avec moi, « Seigneur, augmente ma foi. viens ressusciter ma foi. Pardonne-moi pour ce manque de foi. Pardonne-moi pour cette habitude religieuse. Pardonne-moi parce que je veux vivre autre chose. Peut-être que tu es lassé de ta vie chrétienne, parce qu'elle est terne, parce que tout simplement ta foi est terne, parce que tu as oublié une chose importante, c'est que Dieu t'appelle à vivre une foi différente, une foi qui se construit par une relation avec Dieu. Pendant que la musique commence, j'aimerais qu'on puisse vraiment penser à nos vies. Considérer notre vie, considérer notre vie de foi. Alléluia. Seigneur, priez à Dieu, criez à Dieu pour que Dieu puisse ressusciter notre foi. Seigneur, je veux revenir à une foi vivante. Priez avec moi, que par vos mots, vos propres mots, eh bien, il y ait comme un cri du cœur de dire « Seigneur, je te demande pardon, parce que je veux une foi véritable. » Je veux t'honorer par ma foi. Je te demande pardon pour bien souvent l'incrédulité qu'il y a eu dans ma vie lorsque j'ai pas su te faire confiance. J'ai abandonné peut-être tes sentiers. Je te demande pardon parce que je veux revenir à toi, Seigneur. Je te demande pardon pour l'incrédulité lorsque tu m'as demandé de pouvoir parler à cette personne et en fait, je n'ai pas eu la foi de croire que tu pouvais changer sa vie. Je te demande pardon des fois pour mes propres problèmes où au lieu de me confier en toi, j'ai essayé de me débattre à chercher du secours, tout sauf auprès de toi. Je te demande pardon. Si c'est ton cas, demande pardon à Dieu. Demande-lui sincèrement pardon à Dieu. Parce que Dieu veut bien plus dans nos vies. Dieu veut bien plus dans l'Église. Il veut accorder ses bénédictions. Et ces bénédictions se possèdent par une foi vivante. Seigneur, augmente ma foi. Ressuscite ma foi. Seigneur, aide-moi à être un témoin, un témoignage vivant de qui tu es autour de moi. Dans ma famille, que mes enfants voient qui tu es au travers de ma relation avec toi. Que mes collègues voient qui tu es au travers de ma vie avec toi. Que mes attitudes face au travail, aux épreuves du travail, ils puissent voir que je réagis totalement différemment parce que j'ai foi en toi. Seigneur, élève-toi au milieu de nous. Glorifie-toi au milieu de nous. Glorifie-toi dans nos vies. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. Élève-toi au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.
Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens. Yeah.